8h15 sur France Culture, ce sont les matins du samedi avec vous Caroline Brouet.
Allez, vous avez gagné le droit, Camille Magnard, de revenir à 9h pour les prochaines informations. Dans la prochaine heure, à 8h52, la chronique culinaire de Jackie Durand qui nous parlera du poulpe. À 8h45, l'idée culture, aujourd'hui de l'historienne Catherine Kokri-Vridrovitch. Et à 8h30, la revue de la semaine par Mélanie Chalandon. Dans un instant, notre invité Bernard Ourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'Iran, il fut aussi le directeur de l'Institut français de recherche en Iran de 1978 à 1993.
Palmiers, micros et paillettes, France Culture s'installe au cœur du 71e Festival de Cannes pour une série d'émissions, chroniques, portraits, temps forts dédiés au Festival du 7e art. En direct les matins, la grande table, plan large et les contributions quotidiennes d'Antoine Guillot et Michel Simon. France Culture, partenaire du Festival de Cannes, la fête du cinéma, tous les cinémas, en direct du Palais des Festivals et du Palais des Congrès. À retrouver sur franceculture.fr.
Semaine d'escalade au Moyen-Orient. Jeudi, l'armée israélienne a riposté à des tirs de roquettes sur le Golan en visant des installations iraniennes en Syrie. Cette attaque a eu lieu à peine 48 heures après l'annonce par Donald Trump du retrait de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Sporadique depuis des mois, la tension a donc atteint cette semaine un niveau élevé entre l'Iran et l'État hébreu, que certains qualifient même de tension inédite, de quoi en tout cas faire redouter un embrasement. De son côté, l'Iran, qui là aussi en l'espace de 2 jours, a subi 2 attaques contre ses intérêts dont les conséquences sont imprévisibles, eh bien l'Iran redoute les sanctions économiques qui découlent du retrait américain. Bonjour Bernard Ourcade.
Bonjour.
Alors je voudrais juste vous poser une première question qui va nous aider à y voir sans doute, j'espère en tout cas, un peu plus clair. Puisque de temps en temps, depuis quelques jours, on peut lire « calme ». Calme avant la tempête ou calme après la tempête. Et puis, les journaux titrent à nouveau le lendemain la poudrière, l'embrasement, l'inquiétude, l'escalade. On en est où? Comment sortir de ces yo-yo? Quelle est votre analyse de la situation? Est-ce qu'elle est inquiétante ou finalement, est-ce que tout va bien?
Tout ne va pas bien. Mais je constate le contraste qu'il y a entre les titres des journaux et le développement qui est fait à l'intérieur. Que ce soit Le Monde ou La Croix, titré sur la poudrière, l'explosion, l'escalade, etc. Et à l'intérieur, les journalistes qui faisaient l'article disaient finalement, les Iraniens ont envoyé 12 roquettes, c'est-à-dire des engins certes dangereux, mais assez rustiques. Ils n'ont pas fait une attaque contre Israël. Ils avaient des missiles pour le faire, ils ne l'ont pas fait. Et donc finalement, les Israéliens ont répliqué comme d'habitude de façon magistrale, mais il n'y a pas eu du tout d'escalade. Et les Iraniens n'ont pas réagi militairement comme ils auraient pu le faire. Autrement dit, il y a, parce que c'est Israël, parce que c'est l'Iran, parce que c'est la guerre, parce que c'est médiatique, un focus sur ces questions militaires, ces questions d'Israël qui touchent toujours beaucoup, mais c'est pas la question, je crois.
Vous disiez dans le journal que la question c'était plutôt l'Irak.
L'Irak, oui, parce que l'Irak, il y a un enjeu qui est l'influence régionale. Ce qui compte aujourd'hui, ce qui est en jeu dans toute cette histoire, c'est le fait que l'Iran est un pays émergent, qui était pendant 40 ans en dehors du monde. L'accord sur le nucléaire de 2015 était un très mauvais accord, comme dit M. Trump et Israël ou l'Arabie Saoudite. Pourquoi un très mauvais accord? Parce que pour eux, c'était la porte ouverte à l'Iran. L'accord est un bon accord. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un bon accord sur le plan technique.
Et il faut juste rappeler, parce qu'on en parle beaucoup de cet accord de 2015, mais tout le monde n'est peut-être plus au courant de ce qu'il disait. Il visait à faciliter les échanges commerciaux avec l'Iran, à relancer son économie, tout en levant les lourdes sanctions internationales, en échange d'un engagement de Téhéran à limiter ses activités nucléaires et surtout à ne jamais chercher à obtenir la bombe atomique.
Tout à fait.
C'est bien ça.
Et donc l'Iran a été contrôlé comme jamais un pays n'a été contrôlé sur le plan nucléaire. Donc c'est un bon accord technique pour empêcher un pays d'avoir une bombe atomique avant pas mal de temps. Mais en échange, les portes de l'Iran étaient ouvertes. Et ça, c'est la première fois depuis 40 ans. Vous imaginez bien que les deux pays qui dominent le Moyen-Orient, qui sont Israël d'un côté et les monarchies pétrolières de l'autre, qui pendant 40 ans ont vécu avec un tapis rouge, protégé par l'Occident, et ces pays ont vu un troisième larron arriver, et par n'importe qui, l'Iran. Un pays, une grande nation, un pays puissant, un pays avec une bourgeoisie moyenne nouvelle et qui veut apparaître désormais comme un pays normal, qui va commercer normalement, qui va envoyer des films à Cannes, qui a même l'outrecuidance d'avoir des palmes d'or à Cannes. Ce genre de pays est pour l'Arabie et pour Israël un danger. Non pas un danger militaire, mais un danger sur le fond, un danger politique. Parce que le modèle que propose l'Iran aujourd'hui, qui est le premier pays à avoir expérimenté l'islam politique, république islamique, c'est un oxymore. Et en fait, c'est la République qui a bouffé l'islam, excusez-moi l'expression. Peu à peu, les Iraniens sont restés chiites, ils sont devenus républicains. En 2009, ils ont dit « oui, mais on vote ». Et dans les campagnes iraniennes, les gens votent, ils savent ce que ça veut dire. Alors, c'est pas une démocratie l'Iran, mais les Iraniens, eux, sont démocrates. Et donc, c'est ce modèle d'un pays qui pourrait émerger et être effectivement, puisque l'Irak a disparu, la Syrie a disparu, l'Égypte est impuissante, le seul pays capable de stabiliser le Moyen-Orient, de donner une nouvelle image, c'est l'Iran.
Mais en quoi, Bernard Ourcade, l'image d'un pays moderne ou modernisé, modernisateur même, de ce pays en mouvement qu'est l'Iran, fait-il peur à un pays démocratique aujourd'hui comme Israël, par exemple,
pour justement,
ne pas parler de l'Arabie Saoudite? Et après, je vous pose la question des États-Unis.
En Israël, le problème, c'est le problème palestinien. Tant que l'Iran est un pays voyou, qui fait un peu n'importe quoi, au point de vue terrorisme, au point de vue action régionale, etc., ce n'est pas un danger militaire. L'Iran est un faible pays, ce plan militaire. Et on peut utiliser l'Iran comme un repoussoir. C'est le diable. Et on fait ce qu'on veut à l'intérieur. Et on colonise la Cisjordanie sans problème.
L'Iran utilise aussi Israël comme un pays repoussoir, menaçant l'existence. Et je dois préciser que les 70 ans de la création d'Israël lundi tombent aussi dans un moment très particulier.
Absolument. Et donc, l'Iran ne fait que des slogans contre Israël sérieusement. Il n'y a rien de constructif. Si l'Iran est un pays sérieux et démocratique, avec une forte puissance, capacité d'action politique, il soutiendrait le mouvement palestinien de façon plus solide. Concrètement, les Iraniens soutiennent très peu les Palestiniens, ni OLP d'un côté, ni le Hamas en fait. Donc, c'est un pays qui serait plus crédible, parce qu'il agirait de façon efficace. Et non pas en criant des slogans type Ahmadinejad, Israël doit driller la carte. Ça, c'est du cinéma, c'est du théâtre politique, c'est de médiatisation. Un Iran sérieux, c'est autre chose. En Arabie Saoudite, j'ai fait une anecdote. On m'a demandé aux États-Unis, il y a 4-5 ans, une conférence sur la menace iranienne. Ma première photo de PowerPoint était une jolie fille iranienne. Je dis, voilà la menace iranienne pour l'Arabie Saoudite. C'est que le modèle d'une société où les femmes ont réussi, par force de combat, à s'émanciper, à prendre une place importante dans la société, imaginez ce modèle-là en Arabie Saoudite. Ça fait effondrer tous les fondements même de la société. C'est beaucoup plus grave qu'une menace militaire qui est largement contenue. Donc ce qui est en jeu, en fait, c'est l'émergence d'un nouvel État. Si l'accord était mauvais, c'est parce que justement il était bon. Et il craignait que cet accord ne permette à l'Iran, effectivement, de rentrer sur la scène internationale, d'agir efficacement dans un cadre pacifique, électoral, culturel ou autre. Et donc, on a le choix, effectivement, entre soutenir le statu quo. Statu quo, c'est-à-dire Daesh, des bombes au Bataclan, aux Champs-Élysées, ou bien essayer d'accompagner l'ouverture de l'Iran, c'est d'avoir des films à Cannes. Alors, est-ce qu'on choisit Cannes ou bien Daesh? Il faut choisir.
Bernard Ourcade, dans cette affaire, Israël et l'Arabie Saoudite sont alliés aux États-Unis. Quelle est la stratégie pour vous? Quelle est la logique qui sous-tend le retrait de l'accord? Qui n'est pas une surprise, il l'avait annoncé, et pourtant on a l'impression que ça prend tout le monde de court. Mais malgré tout, quelle est la logique qui sous-tend cette décision de Donald Trump?
Alors, il y a la logique interne. Trump veut faire du contre-Obama à tout prix dans tous les domaines. Bon, ça c'est une question de politique intérieure.
Mais voire surtout... de psychologie. Mais
exactement.
Bon, passons.
Ça, on va voir les psys ensuite.
Exactement.
Mais ce qui comptait aussi, c'est le fait que Trump a repris exactement les mots d'Israël ou de l'Arabie Saoudite concernant l'Iran. Danger, on va retrouver Darius, par exemple. Darius, il est mort, je crois, il y a 3000 ans. Donc, c'est pas un danger immédiat. Bon, on va reprendre des anciennes choses parce que effectivement, il y a aux États-Unis, mais également en France, et on y reviendra peut-être, et dans beaucoup de pays européens, une idée comme quoi l'émergence d'un pays comme l'Iran, un pays sophistiqué, comme peut être l'Inde, comme être l'Afrique du Sud, le Brésil, tous ces pays émergents qui n'existaient pas il y a 40 ans avec cette force. Ces pays remettent en cause l'ensemble du système tel qu'il existait aujourd'hui. On assiste peut-être aujourd'hui à la fin de l'Empire américain. Fin de l'Empire américain, pourquoi? En plus, Trump a fait ça un 8 mai. 8 mai 45, les États-Unis libèrent l'Europe du nazisme et se met en place un ordre international. L'ONU se met en place. Le multilatéralisme. Les États-Unis dirigent un empire. C'est l'impérialisme américain, mais dans un empire, le patron de l'empire est un peu dictatorial, mais il protège ses subordonnés. Or, comme dit Mme Merkel hier soir, avant-hier, les États-Unis ne protègent plus. Les États-Unis sont devenus une rivale. Les Occidentaux, ça n'existe plus. Avant, il y avait les Occidentaux, les Européens, les États-Unis. Ça n'existe plus. Les États-Unis ont dit « America first ». Ah bon ? America first, et moi Europe, qu'est-ce que je deviens ? Et moi Brésil, qu'est-ce que je deviens ? Et moi Canada, qu'est-ce que je deviens ? Résultat, les Américains disent « il n'y a plus d'empire américain ». Alors l'empire américain, c'était le système qui faisait fonctionner le monde. Et maintenant, ça ne fonctionne plus. Autrement dit, aujourd'hui, et certains voulaient aux États-Unis ce genre de choses. Et ils ne veulent donc conserver les États-Unis avec des pays vassaux, comme sont Israël, par exemple, l'Arabie Saoudite, un ordre mondial assez primaire, qui évite l'émergence de forces qui pourraient effectivement recomposer les équilibres mondiaux. Et ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est une grande question de politique internationale, la fin de l'Empire américain. Et donc, que fait dans cet empire, puisque l'URSS a disparu? C'est l'Europe ou les pays émergents qui doivent... L'Europe est émergente, en quelque sorte, politiquement. Dans quelle mesure les pays émergents, dont l'Union européenne, vont pouvoir trouver une capacité de pouvoir travailler avec nos amis américains, qui restent nos amis, mais avec une relation de rivalité économique qui est essentielle.
Bernard Rourcade, vous n'êtes pas spécialiste des États-Unis, mais malgré tout, nécessairement, quand on travaille sur le Moyen-Orient, l'Iran et sa région, on se tourne également de l'autre côté du globe. La stratégie politique des Faucons est-elle victorieuse? Est-ce qu'on peut dire, malgré tout, que c'est la victoire des va-t-en-guerre? Ou bien est-ce qu'on peut aussi dresser une ligne de fracture un peu plus complexe à l'intérieur du gouvernement américain entre un Donald Trump qui est plutôt pour un bras de faire avec l'Iran et une ligne beaucoup plus dure de son entourage, même si c'est lui qui les a nommés, de John Bolton et de Mike Pompeo, néoconservatrice mais vraiment radicale, qui, d'après ce qu'on entend, est plus sur la ligne d'un changement de régime en Iran, qui serait un changement de régime en vue de mettre sur place un régime beaucoup plus dur, là encore, hein, peut-être même militaire ou extrémiste religieux.
Alors je ne crois pas. J'ai eu l'occasion de rencontrer John Bolton et ça a été une expérience les plus terrifiantes de ma vie. Il y a des gens effectivement qui sont pour le chaos. Des gens comme Bolton disait, ils m'ont posé la question, est-ce que vous pensez que si on faisait crever de faim les Iraniens, si on faisait un embargo sur le blé, les gens crèveraient de faim et changeraient le régime et mettraient quelqu'un à la place? Bon, c'est ce genre de choses qui est envisagé très sereinement par ces gens-là. Donc il y a des gens qui veulent en fait le chaos. Le changement de régime, le regime change a été l'idée, le chat va revenir. C'est une erreur fondamentale stratégique, parce que l'Iran est une nation aussi. Le nationalisme iranien est un des piliers du système. La guerre Irak-Iran l'a montré. L'Iran était à la révolution, un pays déchiré entre la droite, la gauche, etc. On savait, Khomeini était là, mais il n'était pas sûr que Khomeini l'emporte. La guerre Irak-Iran arrive. Du Shah à l'extrême gauche, tout le monde s'est uni pour repousser l'ennemi de la frontière. Autrement dit, aujourd'hui, la gifle, l'insulte de Trump aux Iraniens fait que ça bouge beaucoup en Iran. Mais il y a unité nationale pour dire il n'a pas le droit de nous imposer quoi que ce soit. Et donc si un changement de régime, si la République islamique s'effondre demain, ça ne sera pas pour mettre un modéré démocrate chrétien à Téhéran. Ce sera pour avoir quelqu'un d'encore plus radical contre les voisins. Autrement dit, parce qu'ils ne connaissent pas l'Iran, s'imaginent qu'on change un régime comme ça, comme on change de chaussettes, mais ils veulent faire l'expérience de l'Irak. L'Irak est un pays qui n'est pas démocratique, avec Saddam Hussein. Mais que ça donne aujourd'hui, ça donne Daesh. Mais eux sont prêts à cela. Les Twin Towers de New York, c'est loin. Par contre, le Bataclan, comme dit Trump, il y a une solution pour résoudre le Bataclan avec, avec des armes libres. Bon. Et ils ne prennent pas en considération ce genre de choses. Donc ce n'est pas le changement de régime, ils l'espèrent certains, c'est en fait maintenir l'Iran dans une situation de chaos qui fait que l'Iran restera un pays faible pendant encore 20 ans. Et c'est ça qui est en jeu.
Bernard Rourcade, il y a un endroit du monde qu'on n'a pas encore évoqué ensemble, c'est l'Europe. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, réunira mardi prochain, je crois, le 15 mai, ses homologues français, allemands et britanniques qui seront eux-mêmes rejoints par le chef de la diplomatie iranienne. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut espérer de l'Europe? Est-ce qu'il faut maintenir, sauver l'accord nucléaire? Est-ce qu'on doit le faire d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce que vous en pensez?
L'accord nucléaire, lui, il est là, il restera d'une façon ou d'une autre. Même si l'Iran reprend l'enrichissement, ce sera de façon symbolique. L'Europe, la balle est dans son camp. Ne pas oublier qu'en 2003, nous sommes en 2003 aujourd'hui, les États-Unis ont écrasé l'Irak, ils veulent écraser l'Iran. À ce moment-là, Chirac dit « Niette, je ne veux pas participer à la guerre contre l'Irak » et il envoie De Villepin à Téhéran pour signer le premier accord nucléaire en 2003. États-Unis, France, Grande-Bretagne, Allemagne. Et cette EU3, les trois Européens, ont fait ce premier accord extrêmement solide, le même pratiquement que celui d'aujourd'hui. Les États-Unis n'en ont pas voulu. Ils voulaient changer le régime. Ils disaient « Je ne veux pas discuter avec les Iraniens, je ne veux pas l'Iran, je veux l'Iran, pays voyou, un pays de rien du tout. » Et donc, la balle est dans le camp européen. Et aujourd'hui encore, les Européens disent « à nous de jouer ». Mais est-ce qu'ils peuvent jouer? On en parlera tout à l'heure peut-être. Est-ce qu'ils ont les moyens de jouer contre les États-Unis? Parce que le débat aujourd'hui n'est plus politique, il est économique. Est-ce qu'on met en place un système économique pour pouvoir protéger nos entreprises qui sont en Iran? C'est ça l'enjeu. Peugeot est là, il a engagé une production industrielle considérable. C'est 18%, je crois, de la production de Peugeot qui est en Iran. C'est colossal. Si on dit à Peugeot tu prends tes valises demain matin, imagine les conséquences économiques en France. Et l'Allemagne, c'est bien pire. Donc la question est économique. Est-ce que l'Europe peut faire ça? Mystère.
Il est 8h30 sur France Culture. Restez avec nous, Bernard Ourcade.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Brouet.
8h30, on accueille Mélanie Chalandon pour la revue de la semaine. Bonjour Mélanie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et tandis que l'avenir s'assombrit au Moyen-Orient, vous revenez, vous, sur une lueur d'espoir dans le Caucase. Une révolution, là encore, que personne n'avait vu venir.
En 6 semaines, un homme a réveillé, secoué et fait rêver l'Arménie en un avenir meilleur, nous racontait Annick Cogent dans Le Monde hier. Un long portrait consacré à Nikol Pachinian, le leader de la contestation et désormais Premier ministre depuis son élection mardi par le Parlement. Alors, révolution d'un peuple ou révolution d'un homme, Pachinian, à lire ce portrait, semble posséder toutes les caractéristiques de l'homme providentiel. Ancien journaliste, prisonnier politique, agitateur, député et depuis quelques jours chef du gouvernement. Un parcours qui stupéfie les politologues, raconte Annick Cogent. Mais une constance, celle de la lutte contre la corruption, pour la liberté et les droits de l'homme. Pachinian s'inspire de Mandela, témoigne un proche. Mais ce n'est pas moi qui importe, répète-t-il. C'est vous, le peuple, qui comptez. Vous seuls, désormais, êtes les maîtres du pays. Alors, les Arméniens sont-ils désormais véritablement maîtres de leur destin? Pas tout à fait, à lire l'interview accordée par le chercheur Georges Melikian à Mediapart. Car la géopolitique joue toujours un rôle en Arménie, explique-t-il. L'Europe, la Russie, l'Iran sont toujours présents d'une manière ou d'une autre dans la région. Cela dit, rien de comparable avec la révolution en Ukraine qui avait joué l'opposition de l'Europe contre la Russie. En Arménie, pas de slogan ni de drapeaux européens dans les manifestations, observe le chercheur. Pachinian, je cite, ne veut pas donner aux Russes un prétexte pour s'énerver et cela révèle selon lui sa grande habileté politique. Alors maintenant, il faudra composer, certes, mais ce qu'on peut dire avec certitude, poursuit Georges Melikian, c'est que les gens n'ont plus peur de dire ce qu'ils pensent. L'Union soviétique ne s'était pas totalement effondrée en 91, je cite, sa fin se fait maintenant plus proche.
Et la démocratie comme horizon des sociétés humaines, c'était justement la thèse de Francis Fukuyama en 1989. Près de 30 ans plus tard, le philosophe revient sur son fameux texte « La fin de l'histoire » et il répond aux critiques.
Et c'est à lire dans Commentaires un numéro spécial ce printemps à l'occasion des 40 ans de la revue et un dossier dédié aux incertitudes dans lequel on trouve donc ce retour sur la fin de l'histoire par Fukuyama lui-même. Logique, hein, puisque c'est Commentaires en 89 qui avait traduit et publié en français le texte du philosophe américain. Je continue à penser que le cœur du concept reste valable, défend Fukuyama, car on a mal compris l'idée de la fin de l'histoire, explique-t-il. La fin indiquait le but, l'objectif, le point terminal du développement humain. Aujourd'hui, on emploie d'autres termes, comme modernisation par exemple, mais c'est la même chose, dit-il. Alors pourquoi tous les pays de la planète ne sont-ils pas devenus depuis 89 des démocraties libérales et prospères? Eh bien c'est en raison de l'absence d'institutions et d'états modernes, répond Fukuyama dans une sorte de regard critique et rétrospectif. Ma théorie ne faisait pas assez attention à ce prérequis d'un État moderne qui est nettement plus difficile à construire qu'une démocratie électorale parce que l'État moderne est fondé sur l'impersonnalité et le mérite. Le responsable que vous choisissez ne doit pas être votre ami ou votre cousin mais quelqu'un de qualifié pour l'emploi. Or, ce n'est pas ainsi que fonctionnent les sociabilités humaines. Les États modernes peuvent donc régresser. Un autre point que j'avais complètement ignoré, concède encore Fukuyama. Et le danger vient surtout des élites qui peuvent avoir la tentation de s'emparer de l'État pour servir leur richesse et leur pouvoir, c'est ce qu'on appelle la corruption. Fukuyama le qualifie, lui, de repatrimonialisation de l'État. Alors voilà, pour le retour critique de Fukuyama, et pourtant, il conclut « Oui, l'histoire va dans le sens du progrès. Pour preuve, dit-il, ces millions de gens qui tentent de gagner les pays stables et démocratiques, ces pays qui sont à la fin de l'histoire. »
Merci Mélanie pour cette revue de la semaine. Bernard Ourcade est avec nous, il est géographe et spécialiste de l'Iran et de sa région. Il nous parlait de l'Iran comme un État qui se veut aujourd'hui moderne, on y revient justement. Il y a peut-être des causes exogènes et pas seulement des causes endogènes à l'empêchement de certains États d'arriver à la modernisation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fin de l'histoire était un texte américain et ce qui est sûr, Bernard Ourcade, c'est qu'il y a une détestation réciproque entre les États-Unis et l'Iran. Il y avait hier encore des manifestations à Téhéran contre Trump avec le drapeau américain brûlé. On avait envie de prendre le pouls de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce qui se joue aujourd'hui à Téhéran. Et nous avons contacté Fariba Ashtroudi, qui est écrivaine et journaliste, présidente de l'association Mohsen Ashtroudi. Bonjour madame.
Bonjour à vous.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc à Téhéran. Hier, je le disais, des manifestations ont eu lieu à Téhéran. Est-ce que c'est des manifestations d'ampleur? Est-ce que ça a fait du bruit? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Oui, ça fait du bruit. Enfin, ça fait du bruit comme les manifestations font du bruit en Iran. Mais ces manifestations-là étaient des manifestations plutôt organisées par le pouvoir. Ceci dit, ça ne veut pas dire que les Iraniens, dans leur ensemble, n'ont pas vraiment un sentiment anti-Trump. Je dis pas anti-américain, parce qu'il faut vraiment faire la différence, mais certainement vis-à-vis de ce président, et c'est l'unanimité absolue, sauf quelques royalistes qui rêvent qu'effectivement Trump va propulser le petit Reza à Téhéran. Bon, il faut pas rêver, mais eux ils rêvent. Mais il y a un vrai sentiment anti-Trump et d'injustice que les gens ressentent, et très très inquiets sur le plan économique, etc. Mais les manifestations d'hier n'étaient pas vraiment des manifestations d'ampleur de la population, mais ça pourrait arriver.
Bernard Ourcade nous disait quelques minutes avant la revue de la semaine que le débat était économique, et on entend dans votre bouche aussi, Fariba Ajtroudi, que les enjeux sont économiques. Les Iraniens sont-ils plus inquiets pour des raisons économiques que pour des enjeux militaires qui se jouent, par exemple en ce moment, les passes d'armes entre Iran et Israël, les inquiètent moins que les questions économiques?
Totalement, pour le moment, mais j'ai l'impression que d'ailleurs à ce niveau, ils n'ont pas totalement conscience à quel point ça peut dégénérer facilement. Je parlais avec Alain Frachon du Monde récemment quand j'étais à Paris. Malheureusement, justement, cette conscience-là n'est pas, je parle de la population en général, hein, mais des politologues et des gens un peu plus concernés pensent qu'effectivement l'escalade est assez dangereuse, mais en même temps, moi y compris, je pense que le pragmatisme des dirigeants ici ont montré qu'ils ne sont pas... Ça peut paraître des battants en guerre comme ça en apparence, mais quand il s'agit réellement, réellement d'un vrai danger, ils savent faire la différence. Mais ça peut dégénérer. Là, la population, pour l'instant, n'a pas du tout conscience de ça. Hier encore, dans le nord du pays, j'ai parlé avec des gens, ils ont dit non, économiquement, non, la guerre, absolument pas. Et ils ne suivent pas vraiment ce qui se passe non plus en détail. Je parle encore de la population, ce qui se passe en Syrie, la guerre entre Israël et l'Iran sur le sol syrien.
Pour l'instant, la vie quotidienne, donc en tout cas à Téhéran et là où vous vous êtes rendu, Fariba Ajtroudi, semble normale. Qu'en est-il, et ce sera ma dernière question, du risque d'affaiblissement de Hassan Rouhani et du risque de renforcer le pouvoir des ultras?
Là également, les gens ont très peur, effectivement. Mais dans la mesure où, pour le moment, Rouhani, de toute façon, le président, ne dit rien sans avoir l'aval du guide suprême qui lui décide de la politique étrangère. Et visiblement, pour le moment, il semble que les voix sont presque unanime, je dirais presque, parce que l'armée des gardiens de la révolution ont dit qu'ils étaient derrière le président, mais ça n'a pas empêché quand même les bombardements pour la première fois, enfin si c'est avéré que ça vient de l'Iran sur le sol israélien. Donc, non, les gens sont inquiets pour ça, très sincèrement, ils sont très inquiets, parce qu'effectivement il y a des jusqu'au boutistes ici qui ne comprennent pas les enjeux et qui sont capables également d'aller dans le sens de Monsieur Trump, et c'est moi personnellement, j'ai extrêmement peur de ça, et pas mal de gens ont peur de ça également. Oui.
Merci beaucoup, Fariba Ajtroudi, d'avoir été avec nous en direct de Téhéran. Bernard Ourcade.
Oui, je suis entièrement d'accord avec elle sur le fait qu'il y a ce sentiment de responsabilité. Les Iraniens n'ont pas jeté de l'huile sur le feu. Même le guide a dit, au-delà de quelques mouvements d'humeur bien compréhensibles, restons calmes. Nous sommes un grand pays. On ne réagit pas comme ça. Donc, militairement, et comme on le disait tout à l'heure, ils n'ont pas réagi fortement. Et ensuite, les questions de fond continuent de se poser du point de vue économique. Les gens n'ont pas envie du tout d'une révolution. Les Iraniens ont fait une révolution il y a 40 ans. Ça coûte cher, une révolution. Il y a eu une guerre de 8 ans. Des libertés se sont envolées. La devise de la République islamique, c'est indépendance, liberté, République islamique. Indépendance, liberté, République. Tout ça, c'est acceptable. Islamique, parce que c'est l'islam aussi. Ils disent, où sont nos idéaux? Et donc aujourd'hui, on n'a pas envie de faire une deuxième révolution. Et maintenant, les choses avancent, progressent. Et donc l'unité nationale est très importante. Et un mot important qu'a prononcé Farid Bajroudi, l'injustice. Il dit, écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu. On a travaillé, on a fait un accord sur le nucléaire qui était sérieux, on a fait beaucoup de concessions. Et on nous demande maintenant encore plus, et pourquoi à nous et pas aux autres? Nous avons des missiles qui sont encore à l'étude. En face, en Arabie Saoudite, aux Émirats, il y a des milliers de missiles français, américains ou anglais, excellente qualité, braqués chez nous. Pourquoi demander à nous d'enlever nos missiles et qu'il n'y ait pas un équilibre entre les deux? Pourquoi nous et pas les autres? Droits de l'homme, il n'y a que nous et pas les autres. Essayons d'être justes, nous sommes un grand pays. Et là, il y a un consensus national des gardiens de la révolution les plus farouches aux gens qui rêvent de Darius. Et ça, c'est très important en Iran, si on ne le comprend pas. Et l'espoir ouvert par la porte, un grand portail ouvert par l'accord 2015, qui permet aux Iraniens de vivre au 21e siècle enfin, et non pas d'aller à Dubaï pour voir le 21e siècle. Et cet espoir est déçu brutalement. Il y a un sentiment d'injustice, de frustration, dont abat l'Amérique, abat cet empire qui nous protège plus et qui bloque toute évolution.
Bernard Hourcade, le pays est tiraillé, on l'entend, entre des modérés et des conservateurs, entre négociations et fuites en avant concernant l'accord sur le nucléaire, mais bien plus largement entre les réformateurs et les jusqu'au boutistes. Quel est le rapport de force ?
Comme partout, il y a en Iran 25% de gens radicaux qui veulent la République islamique résistant à toute évolution contre Israël, les États-Unis, l'impérialisme, les vieux démons des années 80. Il y a 25% de députés et de gens qui veulent des réformes rapides, démocratiques, être en Californie demain matin. Et il y a au milieu 50% des députés qui sont défense d'intérêts locaux, comme on dirait, qui essaient d'être iraniens, de s'en sortir en criant quelquefois « abat l'Amérique quand il y en a trop » et « vive l'Amérique quand il n'y en a pas assez ». Donc on a un débat politique en Iran tout à fait démocratique, je veux dire, avec beaucoup de guillemets à ce mot-là.
Avec 1000 guillemets, là, oui.
1000 guillemets, mais le rapport de force, il est là. Il y a vraiment, les gens discutent. Il y a une liberté d'expression en Iran. Les journalistes sont très nombreux à parler en Iran. Mais on dit qu'il n'y a pas de liberté après l'expression. Mais le débat est là. Et donc, je pense, ce qui est important, et justement ce qui est craint par Trump, c'est par les États-Unis, par l'Arabie ou les voisins israéliens, c'est que l'Iran devienne effectivement un modèle d'une société post-islamique. La révolution iranienne a été faite, l'islam politique a échoué en Iran, la République a réussi à mettre l'islam à sa place, à toute sa place, qui est importante, mais pas plus que sa place. Et ça, c'est un modèle qui est dangereux, entre guillemets, pour un certain nombre de gens.
Alors, vous parliez, Bernard Hourcade, de cette liberté d'expression, de la possibilité de s'exprimer en Iran. Tout à l'heure, vous évoquiez le cas de Cannes, puisque effectivement des films sont sélectionnés au Festival de Cannes. Ils sont deux, même en sélection officielle, le film d'Asghar Farhadi et le film de Jafar Panahi. Jafar Panahi, on le rappelle, a été condamné en 2011 à 6 ans de prison, à 20 ans d'interdiction de faire des films, de voyager et de parler dans les médias. Lui, il est en liberté conditionnelle aujourd'hui. Son film doit être projeté ce soir. Il parle du statut des femmes iraniennes. On voit bien quand même que tout n'est pas si ouvert que ça. Il n'a pas eu le droit de sortir, ni Asghar Farhadi, de son pays, parce qu'on craint de ce qu'il pourrait dire à l'extérieur quand même.
Exactement. En Iran, il y a la structure politique, l'État, la police, est toujours faite par les gens qui sont au pouvoir depuis 40 ans. Il y a une stabilité remarquable. Et donc l'Iran n'est pas un pays démocratique. L'Iran, il y a un système despotique qui existe et qui est fortement présent. Donc les gens en ont un peu assez de cela en disant « soyez un peu responsables ». Panahi va à Cannes et vous l'empêchez de s'exprimer. C'est infantile comme réaction. C'est infantile et contre-productif. Alors que l'Iran pourrait avoir une image très positive d'un pays qui est capable de produire des grands films, vous empêchez le réalisateur d'aller à Cannes. C'est idiot. Il y a des idiots qui gouvernent. L'Iran n'est pas le seul pays au monde, hélas, dans ce domaine-là. Et cette réalité iranienne extrêmement dure, elle existe. Mais ce que je regarde, moi, en tant que géographe qui regarde la dynamique qu'il y a, on voit une dynamique sociale importante qui s'impose au gouvernement. Et le rapport de force est en train de changer depuis quelques années. L'accord sur le nucléaire, c'est pas le nucléaire, c'est l'ouverture des portes, a été imposé au gouvernement, qui n'avait pas envie de faire un accord avec les États-Unis. Ils ont été obligés de le faire à cause de la pression populaire. Et donc, et aujourd'hui, ça n'a pas marché. Donc certains disent, vous voyez, on aurait dû rester radical parce que l'ouverture, ça ne marche pas. Il y a un débat politique très important en Iran. Il y a un modèle qui est là. Mais la clé, j'en disais un mot tout à l'heure, c'est l'économie. Est-ce que la France et les Européens, les Allemands surtout, qui sont beaucoup plus importants que les Français, vont protéger les entreprises qui sont parties en Iran depuis 3 ans, ont fait des projets magnifiques depuis 3 ans. Et pour l'instant, il y a un grand panneau. Ici, on va ouvrir une usine de 500 employés pour faire des plaquettes de frein pour Peugeot. Et il n'y a que le panneau qui est là. L'usine n'est pas là parce que l'argent n'est pas arrivé pour faire la machine. Donc, est-ce que les Européens vont prendre des décisions économiques pour que, par exemple, la Banque Centrale Européenne protège les intérêts français, allemands, italiens, espagnols ou polonais en Iran, ou pas? Est-ce que nous allons faire, vis-à-vis des États-Unis, une politique d'amicale opposition pour dire, vous n'êtes plus les patrons, c'est too much, vous êtes allés trop loin. Et donc, essayez maintenant de rééquilibrer les choses. Nous n'acceptons pas. Vous imaginez le retour de Renault, de Peugeot, d'Airbus dans quelques semaines, et Trump a dit, vous devez avant le 4 novembre avoir quitté l'Iran. On n'a jamais vu une chose pareille.
Sous réserve de sanctions des pays qui continuent de faire du commerce avec l'Iran. Eh bien, nous verrons, Bernard Ourcade, de mardi, puisque doit se tenir une réunion à Bruxelles des chefs de la diplomatie européenne sous l'égide de Federica Mogherini. Vous restez avec nous, puisqu'il est 8h45 et nous entrons dans le dernier quart d'heure de ces matins du samedi de France Culture. Un dernier quart d'heure qui commence par ce qu'on appelle l'idée culture. L'idée culture, c'est chaque samedi une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marqué dans sa vie. Et c'est Mélanie Chalandon qui s'occupe de cette rubrique. Bonjour Mélanie, rebonjour Mélanie.
Rebonjour. Et ce matin, eh bien, c'est une historienne qui va nous parler de son choix culturel. C'est Catherine Kokri-Vidrovitch, une grande spécialiste de l'histoire de l'Afrique, qui vient de publier son dernier ouvrage, Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines du 6e au 20e siècle. C'est chez Albin Michel. Et puis Catherine Kokri-Vidrovitch est aussi la conseillère historique de la série documentaire Les routes de l'esclavage, diffusée sur Arte. C'est encore disponible au visionnage jusqu'à fin juin. Et alors ce choix, eh bien, c'est un choix musical, mais c'est surtout un souvenir d'enfance.
L'œuvre que j'ai envie de faire partager, c'est le concerto pour violon, l'unique concerto pour violon de Beethoven, et tout particulièrement le dernier mouvement, et tout particulièrement aussi joué par Yehudi Menuhin dans sa jeunesse. Je crois qu'il avait 16 ans quand il a eu un enregistrement absolument merveilleux qui me suit toute ma vie, en fait. Je devais avoir 7 ou 8 ans, ça devait être en 1943 ou 44, c'était probablement encore avant la fin de la guerre. Ma mère était très musicienne, à la différence de moi qui ne le suis pas. J'apprécie la musique, mais je ne joue pas. Elle aimait beaucoup donc la musique, elle écoutait avec quelques amis des disques à l'époque, en général c'était le dimanche quand elle ne travaillait pas. Alors j'étais gamine, je suis rentrée brutalement dans la salle de séjour où étaient les grandes personnes et j'ai entendu dire « Ah oui, elle vient toujours pour ce mouvement, elle l'aime beaucoup ». Et alors j'ai pas voulu les détromper parce qu'en fait je venais demander je ne sais quoi, je ne venais pas du tout pour le mouvement. Il se trouve que je suis rentrée au moment de ce mouvement et que j'aimais effectivement beaucoup. C'est le premier souvenir que j'en ai et ça m'amuse toujours parce que ça me remet dans le justement dans un moment très très agréable, très chaleureux de mon enfance, qui était une enfance par ailleurs dure parce que nous étions des juifs clandestins pendant la guerre, mais ce moment de chaleur, d'apprécier de la belle musique, et moi ça me faisait plaisir qu'il se fasse plaisir. Je ne peux pas l'écouter, quelquefois par hasard, le concerto passe à la radio, je ne peux pas ne pas m'arrêter pour cette musique-là en particulier, parce que ça me fait rebaigner dans une atmosphère, puis parce que le son du violon me touche énormément. Et le son de Menuhin à l'époque, alors c'est vrai que maintenant, quand j'entends d'autres versions tout à fait récentes, je me dis que bon, c'était magnifique, c'était superbe dans son temps, qu'il y a maintenant des façons d'interpréter qui sont un petit peu différentes et que je commence à accepter, justement. Mais que pendant longtemps, je n'acceptais pas parce que c'était Menuhin ou rien. C'est vrai que la plénitude et la pureté du son du violon de Menuhin me touche particulièrement en violon. Et que, en particulier dans ce mouvement où il a par moments des notes extrêmement aiguës, que j'ai très rarement entendu de façon vraiment très satisfaisante. Je trouve qu'il y arrive de façon sublime. Je ne sais pas analyser pourquoi. Pourquoi est-ce que ça m'émeut? Pourquoi je ne peux pas continuer à bouger quand cette musique passe? Je ne saurais pas vous dire. Je suis très mauvaise analyste pour vous dire pourquoi.
Alors pour éviter l'analyse, et justement si on devait associer une émotion, une couleur à la musique, ce serait laquelle?
Avec Beethoven, j'ai toujours de la joie à l'écouter. Peut-être un petit peu de mélancolie, oui, mais dans ma jeunesse, j'étais allée au ce qui s'appelait les jeunesses musicales. Il y était venu, ça j'aurais manqué pour rien au monde, parce que je voulais l'entendre jouer. Son jeu, véritablement, correspond à, chez moi, quelque chose qui me touche profondément. Peut-être parce que finalement, c'est le premier morceau de musique classique, disons, que j'ai connu. Il m'a fait rentrer dans la musique. Donc je suis heureuse d'entendre le morceau par lequel j'ai découvert la musique classique aussi. Ça, c'est tout à fait vrai. Je suis fondamentalement une chercheuse. Donc avoir découvert la musique par Beethoven et par Menuhin, je les ai associés. Et pour moi, il y a en musique classique, mais c'est véritablement ce qui me touche le plus.
Voilà, Madeleine de l'historienne Catherine Kokrividrovitch, un reportage monté par les soins de Doria Zénine, Mélanie.
Mais on redonne la référence de la musique. C'est donc le dernier mouvement, le rondo du concerto pour violon de Beethoven par Yehudi Menuhin.
Les souvenirs d'enfance, c'est ce qui sans doute émeut le plus. Vous faites oui de la tête, je dois préciser aux auditeurs, Bernard Ourcade.
Oui, il y a toujours des morceaux de musique comme ça qui rappellent les souvenirs émouvants. Et pour moi, c'est la révolution iranienne, les musiques de la révolution, les chansons, et entre autres l'ouverture de Carmen. Paradoxalement, quand la radio et télévision iranienne commencent, est islamique, j'écoute la radio qui était en grève, qu'est-ce que j'entends? L'ouverture de Carmen. Et surprise, c'est quand même pas. Mais c'était la révolution libérale, démocratique, pour la liberté, les droits de l'homme, etc. C'est ça la révolution 78 dont j'étais là. Et ça a changé par la suite. Mais donc, pour moi, l'ouverture de Carmen, c'est les espoirs de la révolution iranienne avec la chute du Shah, de la dictature et des atteintes aux droits de l'homme. Et c'était l'ouverture de Carmen.
Bon, bah alors on l'écoute. Voilà ce qui met aussi en joie notre chroniqueur culinaire de Libération, Jackie Durand, qui vient de s'asseoir dans le studio. Bonjour à vous, Jackie.
Bonjour, Caroline.
Il est 8h53 et c'est l'heure de vos mitonnages. Et comme vous êtes en joie, vous allez nous parler à la fois des copains et de la mer. Un peu les copains d'abord, quoi.
Oui, un peu les copains d'abord. L'autre jour, coup de fil du copain Pierre, on dirait de Bretagne, j'ai acheté une araignée de mer et des asperges, ça se cuit comment? Il arrive aussi, par exemple, qu'au cœur de l'hiver, on nous appelle pour une recette de petits salés aux lentilles de nos années étudiantes avec une interrogation cruciale. Dis-moi, tu mets du vin pour cuire les lentilles? Elles sont légion, ces histoires d'amitié autour d'un plat. Ainsi, le petit salé aux lentilles raconte une bande de copains d'enfance qui se retrouvent de loin en loin autour d'une cocotte fumante. D'où vient la recette? Personne ne le sait vraiment, mais toujours revient le souvenir des dimanches de l'adolescence où François, Thierry, Joël s'échinaient autour d'une grande table sur la mécanique de Newton, le calcul intégral, la critique de la raison pure, avant qu'une main bienveillante ne dépose devant eux de généreuses assiettes de lentilles.
Donc là, on passe de Brassens à Sauter.
n'est-ce pas ? À Claude Sautet, pardon.
Alors, la légende du petit salé, elle s'est bâtie sur cette nourriture réconfortante dans l'angoisse du bac blanc. Et s'est perpétuée après, autour de grandes tablées, mais qui sont devenues de plus en plus distendues. Mais ce qu'il y a de bien avec la nourriture, c'est que les amitiés, elles naissent, elles renaissent toujours autour de fameuses passions gourmandes, comme le poulpe, autant dire un alien. Pour moi, qui suis né au pays de la saucisse de Morteau, moi j'ai appris à l'aimer, cette pieuvre mystérieuse, grâce à un cuisinier qui la magnifie. Il s'agit de Nordine Labiade, le chef d'À mi-chemin à Paris. Un jour, il m'a offert une drôle de petite amphore en terre, un piège à poulpe, comme il en utilisait dans son enfance en Tunisie. Le poulpe, c'était le plat du pauvre, dit Nordine Labiade. Franchement, aller goûter son couscous au poulpe, c'est franchement stratosphérique. Et depuis que je l'ai goûté, j'ai une passion tentaculaire pour ce mollusque au bras long, qui, avec ses 300 millions de neurones, a oublié d'être con comme un poisson rouge. Et je suis loin d'être seul, comme en témoigne Annette Thor. Elle vient d'écrire Le Poulpe, 10 façons de le préparer. C'est publié aux éditions de l'Épure. Vous savez, c'est cette petite collection d'opus bigarrés de toutes les couleurs, dédiés au boire et au manger. Quand elle ne cuisine pas, Annette Thor, elle collectionne les livres culinaires. Elle organise des événements gastronomiques. On la soupçonne même de rêver quand elle dort cuisine. Adolescente, elle a rencontré le poulpe au Portugal, où il battait au vent, accroché au toit des restaurants de plage. Elle dit « C'est bien plus tard, quand j'ai enfin osé braver les ventouses peu engageantes, que j'ai découvert comment sa chair pouvait être tendre et délicieuse. » C'est sa rencontre avec le chef du garde-temps à Paris qui l'a convaincu de sauter le pas pour cuisiner le poulpe.
Oui, mais enfin, une fois qu'on a bravé les ventouses, Jackie, on fait comment pour le cuisiner ? Parce que de semaine en semaine, vous nous faites des chroniques qui portent en étendard le fait qu'il faut faire la cuisine nous-mêmes. Et en cela, vous avez, je pense, entièrement raison. Le poulpe, c'est pas facile à cuisiner.
Non, il a la réputation d'être... on va dire un animal battu, hein. Alors, sauf si vous avez un penchant pour la fessée appliquée aux céphalopodes, vous n'êtes pas obligé de l'étriller, le poulpe, à coups de batte de baseball. Après l'avoir fait nettoyer par votre poissonnier, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Annette Thor explique très bien comment l'attendrir. Le plus simple, en fait, c'est de le congeler, au moins 12 heures, afin de casser les fibres. Ensuite, vous le laissez décongeler tranquillement, doucement, dans votre réfrigérateur. Pour la cuisson, Annette Thor donne une autre astuce. Au court bouillon, l'eau doit être frémissante, mais jamais bouillante. Et puis, en fait, avant de l'immerger pour la cuisson, vous allez le plonger 3 fois 20 secondes dans le bouillon à peine frémissant. Ça va permettre de rendre les chairs plus homogènes. Et comme ça, votre poulpe va cuire tranquillement. Temps de cuisson, il dépend de la taille. Vous le piquez régulièrement. Lorsque la pointe d'un couteau le pénètre sans résistance, il est cuit. La peau et les ventouses ne doivent pas se détacher, sinon il est trop tard. Et surtout après, vous vous précipitez sur les recettes proposées par Annette Thor, comme ce poulpe chorizo et haricots borlotti qui nous fait saliver des bons matins. Mais on peut aussi le cuisiner comme l'ami Camille, qui va nous présenter le journal, et qui, lui, le cuisine avec des pommes de terre à l'eau, un généreux filet d'huile d'olive et du paprika. C'est très bon, je vous conseille un vin. Un vin qui a été longtemps méprisé.
J'attendais.
Le blanc du matin, hein. Le vin est un liquide rouge, sauf le matin quand il est blanc, n'est-ce pas ? C'est l'Aligoté, cépage trop longtemps méprisé, que font revivre aujourd'hui une association vraiment magnifique. Ça s'appelle les Aligoteurs. C'est en Bourgogne.
Merci, Jackie Durand. Je voulais juste avoir le temps de demander à Bernard Rocat s'il aime le poulpe.
Pas trop. Par contre, mes amis iraniens apprécient bien le vin qui est dans la mythologie iranienne, dans la poésie, a une place exceptionnelle. Il y a un petit problème aujourd'hui, c'est que le vin en Iran, ils n'en font plus. Tous les amis francophones en font, et quand ils t'invitent le soir en disant « j'ai fait un petit vin, tu m'en donneras des nouvelles », c'est un picrate absolument infâme. Et non, non, excusez-moi, je préfère prendre du thé.
Qu'est-ce que vous préférez dans la cuisine iranienne, à part le vin ?
À part le vin iranien, jadis. Non, il y a des ragoûts, notamment le fasenjoun, qui est une sauce au noir et à la jus de grenade. Et là, quand vous buvez ça, quand vous mangez cela avec un gigot de sanglier, par exemple, c'est prohibé, mais ça se trouve. Et arrosé d'un bon Bourgogne, j'ai eu l'occasion de le faire. Un copain m'avait dit, j'ai trouvé un sanglier, je te le fais au fasenjoun, tu m'apportes le Bourgogne et on le boit ensemble.
Ah, c'est Jackie.
C'était pas mauvais.
C'est Jackie qui va être content, vous nous parlez de sanglier et de vin au petit déjeuner, n'est-ce pas Jackie ?
Souvenir de sanglier qu'on m'avait ramené comme ça, chassé au bord du Tigre en Irak, juste en face.
Ah oui, et les gens savent vivre encore.
Merci beaucoup. Merci Bernard Orcad. Merci Jackie Durand. Juste un mot pour vous annoncer l'émission de Christine Ockrent, Affaires étrangères, qui ne parlera ni poulpe, ni sanglier, ni vin de Bourgogne, mais Moyen-Orient. Bien sûr, Moyen-Orient, l'escalade, on y revient, avec Benjamin Haute-Couverture, Tony Blinken, qui est l'ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis de 2015 à 2017, durant la présidence de Barack Obama. Et puis par téléphone, depuis Tel Aviv, elle aura Clément Terme, elle aura Denis Charbit, et alors Marie-Claire Aoun. C'est évidemment tout à l'heure, samedi. Ben c'est samedi ou 12 mai, c'est aujourd'hui. Voilà, il est 8h59, bientôt 9h sur France Culture. Bon week-end à tous. Merci à celles qui m'ont, puisqu'elles sont toutes féminines, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Mélanie Chalandon, aidée de Juliette Mauban-Nivol. À la réalisation, c'était Doria Zénine. À la technique aujourd'hui, Inès De Bruyne.